connaissance de cette année. Et le thème des dons cette année, c'est « Honore l'Éternel avec tes biens », tiré de Proverbe 3, 9 à 10. Je vais vous inviter à voir trois textes sous vos yeux. Proverbe 3, 9 à 10, 1 Chronique 29, 10 à 17, 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Proverbe 3, 9 à 10, 1 Chronique 29, 10 à 17, 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Voilà. Ayez le texte sous vos yeux parce que de temps en temps, nous allons revenir dans ces différents passages et vous donner la profondeur de ce que Dieu veut que nous retenions et comprenions ce jour. Prions le Seigneur. Père, ta parole est vérité et vie. Elle est pleine de puissance. Elle nous communique la sagesse et la connaissance d'en haut. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore être édifiés et instruits au sujet de ce que tu as prévu, concocté depuis ton trône pour notre édification. Nous voulons que tu changes nos schémas par rapport aux données, que tu changes nos schémas par rapport aux sacrifices, aux engagements, aux investissements que nous t'apportons pour l'avancement de ton règne et l'évolution de ton œuvre parmi nous. Répands, Seigneur, ta gloire dans cette salle, sature l'atmosphère dans ce temple et donne-nous, Seigneur, de partir d'ici. Grandis par ta merveilleuse parole au nom de Jésus. Amen. Ok. Je disais tantôt que ce dimanche, nous aurons un enseignement en lieu et place de la prédication. Et il arrivera que nous fassions souvent des choses comme ça. Que l'enseignement de la parole soit passé à tout le monde. Honore l'Éternel avec tes biens. J'aimerais que tu dises cela à celui qui est à côté de toi. Honore l'Éternel avec tes biens. Honorer est un élément que nous trouvons dans presque toute la Bible. La preuve, c'est que même quand Dieu veut parler du respect que les enfants doivent avoir envers les parents, qu'est-ce qu'il dit? Honore ton père et ta mère. Et Dieu, quand il faisait le reproche aux enfants d'Israël, baissez le volume, quand il faisait le reproche aux enfants d'Israël de ne pas l'estimer comme cela se doit, il disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est très loin de moi. Et quand nous regardons à notre vie, on se rendra compte qu'on n'a pas toujours honoré Dieu comme cela se doit. Quand nous regardons à la manière avec laquelle nous adorons Dieu, on se rend également se rend compte qu'on n'honore pas toujours Dieu comme cela se doit. Il y a des attitudes qu'on adopte même pendant les cultes qui sont des attitudes de déshonneur vis-à-vis de la personne de Dieu. Je vais prendre deux ou trois exemples. Parfois, Dieu voudrait que tu l'honores simplement en l'acclamant. Et parce qu'il veut que tu l'honores en l'acclamant, si pendant qu'on acclame le Seigneur, tu es indifférent à l'acclamation, cette fois-là tu as été devant Dieu comme, non pas comme quelqu'un qui l'honore, mais comme quelqu'un qui le déshonore. Il peut arriver que Dieu se sente honoré par ta prosternation. Et ainsi, si au moment où Dieu veut que tu te prosternes, tu restes debout ou assis, je ne pense pas que tu l'as honoré. Prenons un autre exemple. Lorsque l'enseignant entre en classe, quelle est la réaction des élèves? Ou bien qu'est-ce que les élèves sont appelés à faire? Ils se mettent. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent debout? C'est pour honorer la présence de l'enseignant. Lorsque nous entrons pour le début d'un culte, par exemple, encore, le peuple de Dieu ne se lève pas pour le pasteur, parce que ne l'oubliez jamais, ce n'est pas pour le pasteur que vous vous levez. Ce n'est pas pour les anciens que vous vous levez. C'est parce que le culte en l'honneur de l'Éternel est déjà lancé. Et pour honorer la présence de Dieu, nous nous levons. Donc on ne se lève pas pour accueillir le pasteur. Le pasteur n'est pas le seigneur du culte. Le seigneur du culte, c'est Jésus. Et quand on se lève, c'est pour honorer Jésus. Et l'un des domaines où Dieu aimerait être encore plus honoré, c'est aussi par ce que nous lui donnons, par ce que nous lui apportons, par la qualité de l'offrande que nous lui donnons. Donner à Dieu, c'est une chose, mais donner de manière à l'honorer, c'est la chose la plus essentielle. On peut donner au Seigneur sans honorer le Seigneur. On peut apporter à Dieu sans honorer le Seigneur. Parce que l'important n'est pas de faire un sacrifice à Dieu, mais de lui faire une offrande ou un sacrifice qui soit agréable. Le plus important n'est pas que tu te lèves dimanche pour déposer sur la table l'offrande, ou bien que pendant les dons de reconnaissance, tu apportes une enveloppe ou bien quelque chose dans le panier. Mais l'important devant Dieu, c'est que ce que tu lui apportes soit de nature à l'honorer. Et je voudrais nous dire que s'il y a un domaine où Dieu aimerait être aussi honoré, c'est bien dans notre manière de donner. Si la nature nous enseigne que pour moissonner abondamment, il faut s'aimer, sachant que même sur le plan spirituel, pour moissonner avec Dieu, il faut s'aimer. Ne pensons jamais que nous devons être des moissonneurs qui ne s'aiment pas. Une maman qui, au mois de février, sème en terre des grains charançonnés, à quoi est-ce qu'elle va s'attendre? Qu'elle ne s'attende pas à la moisson. Un chrétien qui ne sait pas qu'il doit qualitativement s'aimer dans le champ de Dieu, qui ne s'attendent pas à des bénédictions. Or, le malheur de beaucoup de chrétiens, c'est que on voudrait que Dieu nous bénisse. La preuve, c'est que si je prononce ici une parole de bénédiction, tout le monde va répondre à haute voix, Amen. Mais ce n'est pas parce que tu as dit Amen que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as dit Amen à une prophétie de bénédiction que tu deviens une bénédiction. C'est parce que tu connais comment est-ce que on fait pour honorer le Seigneur au travers de ce qu'on lui donne que tu es béni. Donc tu seras une bénédiction et une source de bénédiction si tu sais comment est-ce qu'on s'aime chez Dieu. Tu seras une bénédiction si tu sais comment s'aimer dans le champ de Dieu. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 9 au verset 6. Il dit, celui qui s'aime peu moissonnera peu. Celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Ça veut dire clairement que, de même que la nature nous enseigne que si tu veux avoir beaucoup, il faut investir beaucoup, le monde dit souvent quoi? L'argent appelle... C'est ce que le monde dit, n'est-ce pas? Mais ici, je ne veux pas parler de l'argent seulement. Je voudrais te dire que dans tous les domaines de ta vie, si tu ne sais pas sacrifier quelque chose, tu n'auras rien. Si tu ne sais pas investir, tu n'auras rien. Un parent qui ne veut pas investir dans l'éducation de ses enfants, qui ne s'attendent pas à ce que demain on gagne une belle voiture pour venir lui dire « Papa, je t'ai honoré ». Et beaucoup de parents s'attendent au miracle plus tard. Mais ils ne savent pas que si tu veux avoir un enfant qui réjouit ton cœur, tu dois commencer par investir dans sa vie. Si tu veux avoir, même dans le domaine du business où tu es, une entreprise qui fait ta fierté, il faut savoir que tu dois investir dans ce que tu fais. Que signifie honorer Dieu dans l'esprit de notre texte? Honorer Dieu, c'est lui rendre honneur et respect. Honorer Dieu, c'est respecter sa présence. Quand des personnes entrent dans le temple et se trouvent, comme nous observons souvent, en train d'utiliser les téléphones, WhatsApp, ceci, d'autres même téléphone carrément, ça c'est une attitude de déshonneur vis-à-vis de la personne de Dieu. Pendant qu'on est en train de proclamer la parole, vous engagez un commentaire qui n'a rien à voir avec ce qui se dit là-bas, qui n'a rien à voir avec ce qui doit être dit ici, vous êtes en train de déshonorer Dieu. Honorer le Seigneur, c'est respecter sa présence, respecter le cadre dans lequel Dieu est adoré, respecter même votre personne, parce que la Bible dit en Corinthiens 6, 19 que vous êtes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, la manière de respecter le Seigneur, votre manière de respecter le Seigneur dépendra aussi du prix que vous accordez à votre propre personne. Je ne vois pas un adorateur. On a souvent vu des personnes se rendre dans des cultes avec des tenues qui n'ont aucun sens. Vous n'honorez pas Dieu quand vous faites ça. Et parfois, vous venez être une source de scandale dans la maison de Dieu. Vous imaginez une femme peut-être qui est dans une tenue bizarre et qui s'assoit là, expose ses choses. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes que vous êtes en train de mettre en péril par votre tenue. Ça, ce n'est pas honorer Dieu. Donc, je disais, honorer Dieu, c'est le respecter. C'est respecter votre corps. Honorer Dieu, c'est lui accorder de l'estime et de la considération. Au travers de ce que tu fais ou de ce que tu apportes, Dieu voit si tu l'estimes ou pas. Il y a des personnes à qui parfois, vous pouvez tendre un billet de 500, pour vous débarrasser de la personne, n'est-ce pas? Regardez un peu, les richissimes, quand ils vont dans les villages et que vous commencez à chanter derrière eux, papa tel, ils ne vont jamais vous donner un billet considérable, vous savez ça. En venant même déjà au village, ils préparent vos billets. Et vos billets, c'est quoi? 500 claquants. Parce qu'il sait que quand il va te donner le 500, tu vas voir le billet briller. Et tu vas dire, telle personne m'a donné, en fait, il n'a rien fait pour toi. Ce qu'il t'a donné te déshonore même. Et ce que font ces richissimes d'un autre genre, c'est ce que font beaucoup de chrétiens quand ils arrivent dans la présence de Dieu. Il est sûr que parce qu'il a tendu un billet claquant, Dieu va regarder à la beauté de ce qu'il a donné. Mais avec quel cœur est-ce que tu tends ce que tu es en train de donner? Nous y reviendrons. Honorer Dieu, c'est lui accorder une place prépondérante dans ta vie et dans ton cœur. Honorer Dieu, c'est reconnaître dans ta vie qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. C'est reconnaître que Dieu est estimé au-dessus de tout ce que l'on peut penser ou imaginer. Dans le psaume 8, David, quand il veut célébrer la grandeur de Dieu, il dit qui est l'Éternel pour lui. Il dit pourquoi et comment est-ce qu'il élève le nom de Dieu. Et je crois qu'honorer Dieu, c'est effectivement dans nos vies, pousser à l'Éternel des acclamations et des célébrations. Si nous savons faire les louanges des hommes pour ce qu'ils nous donnent, comment est-ce que nous ne ferons pas les louanges de celui qui nous a créés? Facilement, on voit des personnes parler même bien de certains serviteurs de Dieu, mais difficilement, ils élèvent le Seigneur pour ce qu'il est. Honorer le Seigneur, c'est élever son nom et c'est acclamer son nom. Et l'une des questions que je vais vous inviter à répondre par cet enseignement, c'est pourquoi est-ce que nous devons honorer Dieu avec nos biens? Pourquoi devrais-je honorer le Seigneur avec mes ressources? Premièrement, tu dois savoir que Dieu est la source de toute richesse. Amen. Je dis, Dieu est quoi? La source de toute richesse. Examinons un peu ce que dit le roi David à ce sujet. Je vous ai dit tout à l'heure de garder le livre de 1 Chronique sous vos yeux. 1 Chronique 29. Au verset 12, David dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il dit quoi? C'est de toi que viennent quoi? La richesse et la gloire. Ça veut dire que si je suis riche, c'est Dieu qui m'a donné la richesse. Tout ce que j'ai, c'est l'Éternel qui me donne. Il dit, c'est de toi qui vient la richesse et la gloire. Et Dieu dira que l'élévation ne vient pas des hommes, mais l'élévation vient de qui? De l'Éternel. La position que tu as, je vais t'avouer que ce n'est pas ton intelligence qui t'a placé là-bas. Il y en a qui sont plus intelligents que toi et qui ne sont pas là-bas. L'influence que tu as, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de relations que tu es là-bas. Il y en a qui sont plus connectés que toi, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être là où tu es. Tu es le résultat de la grâce et de la faveur de Dieu. La richesse que tu as, c'est Dieu qui te donne. Je dois donc l'honorer avec mes biens parce qu'il est la source de ma richesse. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et puisque la bénédiction vient de Dieu, je dois retourner à l'Éternel ma bénédiction et l'honorer avec ce que j'ai. Deuxièmement, tu dois honorer Dieu avec tes ressources. Parce que chacun de nous n'est qu'un gestionnaire, j'allais dire un intendant des ressources de Dieu. J'aimerais que chacun de nous retienne cela une fois pour toutes. Tu n'es qu'un intendant des ressources de Dieu. Dieu a placé l'homme dans le jardin, Genèse 2, verset 15, pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. La Bible ne dit pas que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il possède le jardin. Mais on a dit que pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il garde le jardin. Le gardien de ta maison est-il le propriétaire de ta maison? Quel est le rôle du gardien? Veiller à ce qu'il n'y ait pas des infiltrations dans la maison. Protéger la maison contre tout agresseur. Protéger la maison contre tout ce qui pourrait entrer dans la maison et corrompre la maison. Si donc, tu n'es qu'un intendant des ressources de Dieu, ça veut dire que même ton salaire, tu es seulement le gardien de ça. C'est pourquoi j'aime le terme que les fonctionnaires utilisent. Quand ils vont à la banque, quelqu'un dit, je m'en vais toucher. Ils ne disent pas, je m'en vais prendre. Mais ils disent, je m'en vais toucher. Ça veut dire quoi? Je suis juste une courroie de transmission entre mon propre salaire et tout ce à quoi est destiné ce salaire. Si donc le fonctionnaire dit, je m'en vais toucher, sache que chaque fois que Dieu te bénit, même si tu avais une voiture, tu touches seulement. Même si tu avais de l'argent, tu touches simplement. Tu n'es pas le propriétaire, mais tu es juste une courroie. Dieu t'accorde les ressources, les richesses pour que tu gardes. Mais il dit aussi que pour que tu cultives. Ça veut dire que celui qui reçoit de Dieu et ne multiplie pas est maudit. C'est une malédiction que d'enterrer ce que Dieu t'a donné. Dans la parabole des talents, la Bible nous dit qu'on a remis 4 à un intendant et il a remis combien à son maître après? 8. À un autre, on a donné 2 et il a remis combien à son maître? 4. Mais à un autre encore, on a remis un talent. Qu'est-ce qu'il allait faire? Enterrer. Et quand le maître vient pour le compte rendu, qu'est-ce qu'il dit au maître? Je savais. Parmi nous, il y a tellement de chrétiens, je savais. Hein? Je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Et c'est pour cette raison que je suis allé enterrer. Et le maître lui dit, parce que tu as enterré, comment est-ce que le maître l'appelle? Méchant serviteur. Tous ceux qui enterrent ce que Dieu leur a donné, vous êtes méchants. Méchant serviteur, tu aurais dû prendre mon argent, aller placer dans une banque pour que ça produise au moins les intérêts. Comprenez que même Dieu n'aime pas la stérilité. Dieu veut que nous soyons fécons. Dieu veut que tu multiplies et que tu accroisses tout ce qu'il t'a donné. Ne te réjouis jamais parce que tu as conservé, mais réjouis-toi parce que tu as multiplié. Dieu veut travailler avec des multiplicateurs. Certains sont contents. Quand on leur donne un billet, on fait 10 ans, on revient, il te sort le même billet, il te donne. C'est la pauvreté. Tous ceux qui font ça doivent être délivrés de la mentalité de pauvreté. Ça veut dire que tu n'es pas un multiplicateur. Dieu aime les gens qui investissent. Et tu dois honorer le Seigneur avec tes ressources parce que c'est encore lui qui te donne l'intelligence pour multiplier ce qu'il t'a accordé. Ce n'est pas par tes efforts, je ne dirai jamais assez, mais c'est parce que l'Éternel t'aime tellement qu'il t'accorde la grâce d'avoir une intelligence féconde, à telle enseigne que, à partir de 1, on peut venir demain trouver 2, et après demain, on trouve 4, ainsi de suite. Tu dois également honorer Dieu avec tes ressources, parce que en apportant à Dieu, tu l'adores. L'offrande, retenez ça, est un acte d'adoration. Le donner est un acte d'adoration. Quand tu donnes, même si c'est un pauvre, à travers cet aumône, tu adores Dieu. Quand tu donnes, même si c'est un serviteur de Dieu, à travers ce don, tu adores Dieu. Quand tu apportes à l'église, par exemple, pour l'avancement des travaux, à travers ce que tu fais, tu adores Dieu. Quand tu donnes à un membre de ta famille pour le soutenir, tu es en train d'adorer le Seigneur. Je dois apporter à l'Éternel parce qu'en le faisant, je suis en train de l'adorer. David, dans le texte que j'ai pris tout à l'heure, dit à l'Éternel, « Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom. » Il s'apprête à donner à Dieu. Mais avant de donner, qu'est-ce qu'il dit? Nous te louons et nous te célébrons. Ce qui fait que quand il y a des personnes ici, parfois quand je vous vois avancer ici pour apporter vos offrandes à Dieu, quelqu'un est triste. Il a le visage froncé. Tu peux croire qu'il fait plus que son âge. Même pas tu peux croire. Il fait plus que son âge. Alors que le moment où je m'approche du trône de Dieu, c'est le moment où je devais être le plus content. Il n'y a pas d'endroit où vous puissiez véritablement expérimenter la joie que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. David a dit autrefois, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Attendez, si tu es triste ici, tu seras joyeux où? Si nous ne pouvons pas voir ta joie ici, où est-ce que tu es joyeux? S'il y a un endroit où tu es joyeux, je vous ai souvent dit ça, Sache que l'endroit là, ce n'est pas une source de joie, c'est une source de tristesse. Parce que chaque fois que tu sortiras de là, ce sera tellement compliqué pour toi. Et au verset 15 du même texte, il dit, nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Il le dit, voilà ce que nous sommes, comme des étrangers. Mais lorsque nous sommes dans ta présence, tu nous accueilles. Voilà pourquoi, en te donnant, nous nous réjouissons, parce que nous savons que tu es notre Dieu. Si maintenant je sais pourquoi est-ce que je dois honorer Dieu, il est important qu'on vous dise aussi qu'il y a des offrandes qui déshonorent Dieu. Et nous allons voir peut-être quatre. Il est un type d'offrande, bien-aimé, qui devant Dieu a un déshonneur, est une source de condamnation. Et l'offrande qui déshonore Dieu, voici ce que ça fait dans ta vie. Ça attire la mort, la stagnation et la pauvreté. Parlant de ce type d'offrande, je vais parler de quoi? Des offrandes faites de manière concurrentielle ou émotionnelle. Ce que tu apportes parce que tu veux rivaliser un tel, c'est une offrande qui déshonore Dieu. On dit que Chorale, Nouvelle Alliance, a fait 100 000. Bethel dit qu'ils veulent montrer quoi ici à l'église. Ceux-ci peut-être le faisaient naturellement. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites. Ils le faisaient peut-être naturellement. Mais celui maintenant qui apporte de manière concurrentielle déshonore Dieu. Joseph, dans Acte 4, a donné pour honorer le Seigneur. La Bible dit qu'il a vendu son champ et il a donné aux apôtres. Chapitre 5 de Acte. On dit, mais un homme nommé Ananias a aussi fait. Ananias a apporté l'offrande de manière concurrentielle. Il voulait rivaliser Joseph. Mais le cœur n'était pas encore prêt à faire ce que Joseph fait. Parfois, quand tu entends quelqu'un à faire, avant de dire, je vais aussi faire comme lui, réfléchis beaucoup. Tu risques d'apporter une offrande qui va déshonorer Dieu. Une offrande qui déshonore Dieu, c'est ce que la Bible appelle le superflu de tes ressources. C'est-à-dire une offrande qui ne te coûte rien et qui ne représente rien par rapport à la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée. Il y en a qui, toute leur vie, depuis qu'ils sont entrés à l'église, ce n'est que le superflu qu'ils donnent à Dieu. Ils ont calé leur impôt. Peut-être, je dis n'importe quoi, hein. Je me prépare à 1000 francs. Je donne 500 dimanche. Dieu me lève aujourd'hui. J'avais déjà calé mon impôt. 1000 francs, 500. Le franc, ce n'est pas un impôt. Ce que j'apporte au Seigneur, ce n'est pas un impôt. Et si j'apporte au Seigneur comme si je payais un impôt, mon offrande déshonore Dieu. L'offrande qui déshonore Dieu, c'est une offrande faite après murmures, après des murmures et des actes de rébellion envers le Seigneur. Il y en a qui, avant d'apporter, ont de la maison jusqu'au temple, dit tout sur l'église. Et après, ils ont le courage de se lever et de déposer une offrande. Tu vas rentrer comme Ananias et Saphira. Même si physiquement tu ne meurs pas, spirituellement tu vas mourir. Et demain tu vas chercher les pasteurs qui vont prier pour chasser les démons qui sont derrière tes affaires. Alors qu'il n'y a aucun démon. Le démon là, c'est ton cœur qui est méchant, mauvais. Un cœur qui médite la haine, la convoitise, la jalousie. Regardez un peu le cœur de Caïn quand il a porté l'offrande. Dieu lui dit, le péché s'écoute à ta porte. Mais parce que Caïn était rempli de jalousie, il a quand même osé. Au lieu d'améliorer la qualité de son offrande, qu'est-ce qu'il allait faire? Il a tué son frère. Il y en a qui tuent les autres parce que Dieu les bénit. Dieu le bénit et l'élève. Parce qu'il a honoré par son offrande. Mais toi, tu l'as déshonoré comme Caïn. Et dès que Dieu l'élève, tu es le premier à aller dire à qui veut l'entendre qu'il n'est plus simple. Est-ce que tu ne réalises pas que depuis un bon bout de temps, il a acheté ceci, il a acheté cela, il a acheté celui qu'il a trempé. Quand vous dites ça de quelqu'un qui honore Dieu par sa vie, vous dites qu'il a trempé. Je vais dire amen à ce que tu as dit. Il a effectivement trempé. Il a mis sa main dans les choses de Dieu. Et parce qu'il a mis sa main dans les choses de Dieu, on ne ressort jamais là-bas sans être saturé de bénédiction. Donc si tu es jaloux de celui qui a trempé, trempe aussi. Amen. Si tu estimes quelqu'un élevé parce qu'il a trempé, trempe aussi. Il y a une eau où on trempe. Cette eau, c'est l'eau que la femme samaritaine a rencontrée dans Jean chapitre 4. Jésus a dit que celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Va tremper aussi ta part de main là-bas. C'est dans cette eau que tu sors avec la richesse, la santé, la bénédiction. Et toi qui n'as pas trempé, tu connais ou pas ta part? Tu connais tous les hôpitaux qu'il y a au Cameroun. Tu es a priori en bonne santé. Mais tu as le contact de moins 5 spécialistes dans ton téléphone. Il y a celui qui gère ta tête. Il y a celui qui gère tes pieds. Il y a celui qui gère ton estomac. Il y a celui qui gère. Il y a celui qui gère. Il y a celui qui gère. Ne trempe pas chez Dieu. Tu vas aller tremper dans autre chose. Abel était tranquille parce qu'il avait honoré Dieu. Et dans le texte, je vais vous lire ça à la maison, Genèse 4, 1 à 4. Dans le texte, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire quand Dieu a regardé Abel, il a dit, voici le genre de personne que je recherche. Et c'est quand tu apportes à Dieu, Dieu peut regarder à ton cœur et dire, voici le genre de personne que je recherche. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses avant de t'approcher de lui? Quel état du cœur lorsque tu viens vers le Seigneur? Et je vous dis que si tu te rebelles contre une offrande et que tu la portes après, tu es dans la condamnation. On dit, il faudrait par exemple que pour telle chose, on apporte tant. Oh, est-ce qu'on doit dire aux gens ce qu'ils vont faire à l'église? Est-ce que l'église maintenant est devenue quoi? Et parfois, comme ça, c'est au bar que tu le fais. Et dimanche, tu viens même apporter au-delà de ce qu'on a demandé. Je vais te dire que ce n'est pas parce que tu as dépassé que tu as honoré Dieu. Ton cœur et ta bouche ont déshonoré le Seigneur. Enfin, je vais te dire que l'offrande qui déshonore Dieu, c'est une offrande qui est faite avec un cœur souillé. Le cœur souillé, c'est ce que nous venons de dire. C'est le cœur d'une personne qui n'a aucune relation avec Dieu. Mais pense que par son offrande, il aura l'estime de Dieu. Ton offrande ne va pas te faire entrer au ciel. Même si pendant le Moyen-Âge, on a développé une doctrine et une philosophie dans l'église selon laquelle, si tu apportes l'offrande, tes jours seront garantis au ciel. Je lisais dans un document, on parlait d'un richissime du 16e siècle. Il avait tellement investi que l'évêque lui a dit qu'il avait combien? 1 million de combien de jours là au paradis. Ça veut dire que le jour où les 1 million là vont finir, il va changer de côté. Et pour ne pas changer de côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner. C'est un mensonge. Ton offrande n'est pas le véhicule qui va te conduire vers le ciel. Mais je vais te dire que le véhicule qui te conduit dans la présence de Dieu, c'est d'abord ta nouvelle naissance. Si tu es né de Dieu, ce que tu apportes au Seigneur va glorifier le Seigneur. Et très souvent, Dieu n'agrée pas certaines offrandes parce que le cœur qui apporte, il ne connaît même pas. Rassure-toi toujours que tu as une relation avec le Seigneur. Comment donc honorer Dieu avec ses ressources? C'est par là que nous allons sortir ce matin. Honorer Dieu avec ses ressources, c'est donner en signe d'adoration et d'action de grâce. Il est question ici de vous donner premièrement à Dieu avant de lui donner quoi que ce soit. Et c'est ce qu'ont fait les chrétiens de Macédoine. Dans 2 Corinthiens 8, au verset 5, il est dit ceci d'eux. La Bible dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donné eux-mêmes. Je veux que tu dises à ton voisin, donne-toi d'abord à Dieu. Parce que quand tu ne t'es pas donné à Dieu, ce que tu donnes, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas la main qui donne, mais il regarde beaucoup plus au cœur qui donne. Les Macédoniens se sont donnés à Dieu. David et son peuple se sont donnés à Dieu. Et je sais que quand une personne s'est donnée à Dieu, son offrande sera conséquente. Quand une personne s'est donnée à Dieu, ne regarde pas ce qu'il donne au Seigneur. Je vous ai aussi fait le témoignage d'un homme de Dieu nigérian. Très souvent, quand il organise ce que nous appelons chez nous Sino, il y a un monde fou qui vient là-bas. Ils reçoivent souvent 1 million de personnes pendant ce qu'ils appellent Assemblée Générale. Et avant qu'ils ne reçoivent, il y a des gens qui se bousculent pour donner à manger aux autres. L'église ne dépense pas un franc parce qu'il y a à l'intérieur de l'église des gens qui savent donner en signe d'adoration. Ce même serviteur de Dieu, il prend la parole un jour et dit à ses fils, « Ne me donnez plus les voitures, je suis déjà rassasié de voitures. » Dès qu'il finit, quelqu'un se lève dans la foule, se met à crier, les huissiers l'ont arrêté, « Non, n'avance pas. » Et le père dit, « Laissez-le venir. » Il dit, « Papa, ce que tu es en train de dire, tu veux m'empêcher d'être béni, pourquoi? Les autres t'ont donné. Moi, je veux arracher ma part. Je viens d'acheter une Ferrari. Voici les papiers de ça. Si tu veux, tu prends, tu jettes, mais bénis-moi. » Le cœur, lui, il s'en fout de ce que... Parce que vous savez que certains ne donnent pas aux serviteurs de Dieu parce qu'il a déjà beaucoup. Quelqu'un dit, mon parking est plein, ne me donnez plus. Mais quelqu'un dans la foule dit, eux là, c'était leur part. Moi, je veux ma part. L'offrande sera toujours un acte d'adoration, mais il est important que tu te donnes d'abord, comme les chrétiens de Macédoine. Comment honorer Dieu avec ses ressources? C'est donner avec libéralité. N'apportez jamais au Seigneur par obligation. Personnellement, comme serviteur de Dieu, moi j'ai toujours dit, je ne vais jamais contraindre les gens à donner quoi que ce soit. Pour que je rende ministère, jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, si tu viens me voir pour quelque chose, je te dis, donne-moi d'abord telle chose, dis que pasteur, tu as déjà apostasié. Ne donnez jamais par obligation, mais donnez volontairement à Dieu. L'offrande que tu apportes dimanche, ne le fais pas parce qu'on t'a contraint. Ne permets même jamais qu'on t'oblige à donner. L'offrande doit être une émanation pure de ton cœur. Quand nous rentrons, je vous ai donné des textes et j'ai dit, gardez ces textes sous vos yeux. Dans 1 Chronique 29 que je disais tout à l'heure, David parle au verset 17. Il dit, excusez-moi, 1 Chronique 29, verset 17, il dit, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. » Il dit, « Je t'ai fait ces offrandes comment ? » Volontairement. Bien-aimé, donne toujours volontairement. Que ce soit en don de reconnaissance, fais-le volontairement. Si c'est pour bénir le ministère d'un serviteur de Dieu, fais-le volontairement. Si c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, fais-le volontairement. Que rien ne t'oblige, que personne ne t'oblige, que ce ne soit pas parce qu'on a trop crié, martelé, matraqué les messages. Parce que parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui savent vous manipuler pour que vous donniez. Quelqu'un dit, celui qui ne donne pas est maudit. Du coup, tu ne peux pas être maudit. Tu sors, tu donnes. Là, c'est une manipulation psychologique des personnes. Quelqu'un te dit, si tu ne donnes pas au moins tel montant, tu n'auras pas telle bénédiction. C'est de la manipulation. Et ça, c'est ce que ça veut dire, donner par obligation. Sans toi libre. J'ai personnellement fait souvent quelque chose. J'arrive quelque part, j'ai apporté une offrande que je sais consistante à Dieu. Si vous estimez que ça ne suffit pas et que vous voulez encore faire un second tour, du moment où je sais ce que j'ai donné, je ne me lève plus. Parce que je sais ce que j'ai apporté à Dieu. Et c'est dans cette optique que je vous encourage à honorer le Seigneur avec ce que vous lui donnez. Troisièmement, donnez avec un cœur soumis à la volonté de Dieu. Rassurez-vous toujours que dans ce que vous donnez au Seigneur, il y a une attitude de soumission à l'autorité de Dieu. J'ai vu quelqu'un dans une paroisse de notre église. Il donne son offrande toujours avec deux doigts comme ça. Et ça ne dépasse jamais 1000 francs. Jamais. Si ce n'est pas un biais claquant de 1000 francs, c'est deux biais claquants de 500. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais lui seul sait pourquoi il fait ça. Au travers de cela, nous ne voyons aucune soumission envers le Seigneur. Aucun respect, aucun honneur fait à la personne de Dieu. Ne sois pas de ce genre. Quatrièmement, donne de manière sacrificielle, comme les Macédoniens. Je veux vous avouer que le témoignage des Macédoniens m'a tellement touché quand je préparais cet enseignement. Au verset 1 de 2 Corinthiens 8, on dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations. Quand on parle de beaucoup de tribulations, ça veut dire qu'ils ont donné dans quel contexte? Dans un contexte, ils avaient tellement de difficultés. Bien-aimé, ne te prive pas de donner à Dieu parce que tu dis que les temps sont durs. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, leur joie débordante, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils souffrent, ils étaient contents d'apporter au Seigneur. Leur pauvreté profonde, ils étaient plus pauvres que toi. Leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de richesse, de riche libéralité de leur part. Ils étaient pauvres, ils n'avaient rien, qui ont plus que les chrétiens de Macédoine. Mais ils ont donné. Ne faites jamais qu'on ait pitié de vous dans l'église. Ne vivez pas comme des chrétiens sous assistance respiratoire. Regardez un peu dans la parabole des talents. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, celui qui est allé enterrer, ôtez son seul talent, donnez à celui qui a multiplié, afin que celui qui avait un seul talent soit bien pauvre, et celui qui avait 8 talents soit encore plus riche. C'est ça Dieu. Donc si tu estimes que tu es pauvre, Dieu va t'appauvrir davantage. Confesse la richesse sur ta vie. Ne te regarde jamais comme une pauvre personne. Ne te regarde jamais comme un misérable. Dieu dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Si je suis l'enfant de celui à qui appartiennent l'or et l'argent, je n'ai pas le droit de confesser la pauvreté dans ma vie. Si tu confesses la pauvreté, tu seras bien pauvre. Tout le monde va se moquer de tes chaussures, de la qualité de tes habits. C'est bon? On avance. Cinquièmement, donnez en fonction de la grâce, de la bénédiction que l'Éternel vous a accordée. Tout à l'heure, je disais qu'il y en a qui donnent comme si c'était un impôt. Dans Deutéronome 16, au verset 16, la Bible dit: chacun apportera au Seigneur en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Même si parfois on a fixé un taux et on a dit, donnez tel montant, bien-aimé, si tu sais que ta bénédiction est au-dessus du taux qui a été fixé, va au-delà. Les chrétiens de Macédoine l'ont fait. Parce que Paul dit qu'ils ont non seulement donné ce qu'on attendait, mais ils sont allés au-delà. Pourquoi? À cause de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Parce qu'ils voulaient honorer Dieu. Enfin, donner, non pas comme une formalité, mais donner comme un devoir en tant que chrétien. Et quand je parle de formalité, vous savez que on observe souvent ça pendant les dons de reconnaissance. Beaucoup apportent comme si c'était une formalité. Et surtout quand il s'agit de ce qui doit revenir au serviteur de Dieu. Parfois vous faites quoi? On se connaît un peu. Les gens ont préparé leur don de reconnaissance correctement et bien. Maintenant on a tout fini. On dit maintenant c'est ce qu'on va donner au pasteur, don en nature. Qu'est-ce qu'on fait? On dit cotisons 5 500. Ou 1000 francs. Ou ceux qui ont trop faim. Puisque nous sommes 20, 5 500, ça donne combien? 10 000. Qu'est-ce qu'on va au marché? On achète le sel, le papier hygiénique, l'eau Tanguy, 2 palettes. C'est beaucoup, non? On arrive, on déchire. Chacun prend une bouteille. Il entre avec. Il y a des choses que vous faites. Parfois, je me mets là, je regarde, je dis, oh Seigneur. Regardez un peu ça. Dieu a suscité des personnes qui jeûnent, qui prient pour vous. J'ai souvent entendu des fidèles se fâcher. Papa, si j'étais malade, tu n'es pas venu. Pourquoi est-ce que tu es remonté? Parce que c'est son devoir d'être là quand tu es en situation, c'est vrai, non? J'étais en deuil, tu n'es pas venu. Pourquoi? Parce que tu le dis, parce que tu sais que c'est son devoir d'être là. Il est l'instrument que Dieu a suscité pour prier pour toi quand tu es malade, pour être à tes côtés, t'entourer de chaleur, de bénédiction, te soutenir, faire tout ça pour toi. Et quand vient maintenant le moment de bénir Dieu pour son ministère, tu le réduis au niveau des papiers hygiéniques. Ou encore, tu es, si tu le transformes en marabout, il faut lui donner beaucoup de sel. Nous ne sommes pas les marabouts, s'il vous plaît. Parfois, quand on entend des choses qui sortent de la bouche de certains fidèles en droit des serviteurs de Dieu, je ne sais pas si c'est ici que je dis ça l'autre jour. Tel que tu vois un serviteur de Dieu, c'est comme ça que Dieu va l'utiliser dans ta vie. La femme tsunamite était stérile, n'avait pas d'enfant. Élisée a fait un an là-bas. Elle a aménagé une chambre pour lui. Il a mangé chez elle pendant un an. Et elle ne lui demandait rien. Le jour où Élisée devait partir, il dit, femme, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? La femme lui dit, je suis dans mon pays. Élisée lui dit, à cette même période l'année prochaine, tu auras un enfant. Et effectivement, un an après, elle a eu un enfant. La veuve de Sarepta, que vous citez souvent et que vous chantez, même, elle a regardé Élie. Élie a dit, donne-moi ce que tu as. Elle a donné. Et quand il a mangé, il dit, l'huile ne manquera plus jamais dans sa cruche. Et la Bible nous dit que pendant les périodes de disette, alors que les gens mouraient de faim, elle avait de l'huile en quantité. C'est Dieu qui avait prononcé la parole. C'est Élie qui avait prononcé cette parole sur elle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, bénissez le ministère afin qu'il ne vous serve pas en murmurant. Il y a des choses que nous faisons très souvent qui devant Dieu est quelque chose de grave. Jésus a dit que si vous recevez un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Car il disait aux apôtres que si quelqu'un vous reçoit, c'est qu'il m'a reçu. Si quelqu'un vous diminue, vous réduit, c'est qu'il m'a réduit. Si quelqu'un vous honore, c'est qu'il m'a honoré. J'étais scandalisé quand je suivais un témoignage dans une communauté. Une communauté qui n'était pas au village. Mais la maison où l'évangéliste vivait, depuis que je suis né, n'ai jamais vu une maison laide comme ça. La maison du pasteur était inachevée, pas parce que la communauté manquait de moyens. Et un jour on dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas détruire la maison de l'évangéliste et envisager l'autre? Voici ce que quelqu'un dit. Il y a des fidèles ici qui n'ont même pas là où ils habitent, ils sont en location. Lui, au moins, il a un cadre où il va dormir. Et après, tu attends qu'il vienne prier pour que tu sois béni. Après, tu attends qu'il vienne dire des paroles pour que ta vie change. Tu attendras encore longtemps. Et même s'il ouvrait la bouche sur toi, Dieu dit dans Malachie 2, je maudirai vos bénédictions. C'est-à-dire que si tu es béni, Dieu va transformer ça en autre chose. Il n'est question pour nous, à travers cet enseignement, d'amener le Seigneur à changer notre mentalité par rapport aux données. Que ce soit ce qu'on lui apporte pour un ouvrage. Regardez un peu, parfois je suis un peu choqué, hein, quand je regarde chez nous, quand on lance un chantier dans nos églises, si ça n'a, celui qui n'a pas duré, c'est 20 ans. Pas c'est parce qu'on est pauvre, jamais, c'est la mentalité. Parfois on est nombreux en service, et vous entendez ce qu'on apporte. Si vous pensez que c'est parce qu'on est pauvre, jamais. C'est parce que nous sommes négligents et on n'honore pas le Seigneur. Quand vous regardez à la manière avec laquelle évoluent nos business, ce que nous avons à la maison, vous pensez que c'est parce qu'on est pauvre, c'est parce que Dieu n'est pas là. Jamais. C'est notre manière d'être. Je vais conclure en lisant 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. Je ne vous ai pas annoncé ça au départ. C'est 2 Chroniques 29. On est ensemble. Ça coupe un peu. Hein? Ça avance. Hein? Voilà. 2 Chroniques 29, 11. Dieu dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car Vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Dieu reprochait au sacrificateur de le déshonorer. Au lieu de lui apporter des parfums, c'est-à-dire des offrandes sacrificielles, il venait faire semblant devant lui. Et si tu fais semblant devant Dieu, Dieu, je ne veux pas dire qu'il fera semblant de te bénir, mais c'est ce qu'il fera, malheureusement. Et il ne faut pas que Dieu fasse semblant de te bénir pour qu'il te bénisse effectivement. Que Dieu change notre mentalité, notre manière de lui donner. Amen. Amen. Je prends une question, s'il y en a.